Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Espérance aujourd'hui est une émission de réflexion biblique.
Il est important de remonter aux origines de l'humanité pour mieux comprendre notre histoire, ainsi que celle du monde d'aujourd'hui.
Et le récit de nos origines se trouve dans le livre biblique de la Genèse. Voilà pourquoi nous consacrons du temps pour étudier les chapitres 2 et 3 de ce livre.
Écoutons pour continuer la lecture de Genèse chapitre 3, versets 1 à 6. Ensuite, Yann poursuivra ses discussions en compagnie de notre invité Étienne.
Le serpent était le plus tortueux de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il demanda à la femme : « Vraiment, Dieu vous a dit ne manger du fruit d'aucun des arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent : « Nous mangeons des fruits des arbres du jardin, excepté du fruit de l'arbre qui était au milieu du jardin. Dieu a dit de ne pas en manger et de ne pas y toucher, sinon nous mourrons. » Alors le serpent dit à la femme : « Mais pas du tout, vous ne mourrez pas. Seulement Dieu sait bien que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme Dieu, choisissant vous-même entre le bien et le mal. » Alors la femme vit que le fruit de l'arbre était bon à manger, agréable aux yeux, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit donc de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était avec elle, et il en mangea.
Merci Sandra. Durant ces trois dernières émissions, nous avons étudié le chapitre 2 du livre de la Genèse. Nous avons appris que Dieu y créa le premier homme et la première femme, et qu'il les plaça dans un jardin merveilleux, un véritable paradis. En ce lieu, tout était parfait. Ce couple jouissait d'une relation épanouissante. Ils étaient heureux de vivre ensemble. Ils bénéficiaient aussi de la présence de Dieu, d'une communion parfaite avec lui. Le travail que Dieu leur avait confié était agréable. Le jardin offrait de beaux fruits, agréables au regard et délicieux à manger. Aujourd'hui, nous commençons l'étude du chapitre 3 de la Genèse. Et comme nous venons de l'entendre, les événements sont sur le point de changer. Étienne est de retour parmi nous pour nous en parler davantage. Bonjour.
Bonjour Yann et bonjour à tous.
Étienne, ce chapitre 3 de la Genèse nous présente un serpent qui prend la parole. De plus, la Bible le décrit comme le plus tortueux des animaux créés par Dieu. Étienne, parlez-nous de ce serpent car il surprend. Tout d'abord, parce que de nos jours, les animaux ne parlent pas. Et puis, parce que nous avons affirmé que tout ce que Dieu a créé était bon. Oh, de toute évidence, ce serpent est méchant.
Oui, nous n'avons pas le temps de faire une étude approfondie à ce sujet, mais la suite de la Bible nous conduit à la conclusion suivante. Ce serpent était un animal possédé par un esprit mauvais, un esprit que la Bible nomme Satan ou bien le diable. Cet esprit fut créé par Dieu. À l'origine, il était bon et faisait partie des anges qui adoraient et servaient Dieu dans les lieux célestes. Toutefois, les anges, comme les hommes, furent créés libres, avec la capacité de choisir, si oui ou non, ils allaient placer leur confiance en Dieu. Et, de toute évidence, le diable fit le choix de s'opposer à Dieu. Il aspirait à prendre la place de l'Éternel, il voulait s'approprier la gloire qui revient au Seigneur seul. Alors, il devint l'ennemi de Dieu, et pour s'attaquer à Dieu, il s'en est pris en premier lieu aux hommes que Dieu avait créés. Voilà le contexte de ce récit trouvé en Genèse 3. Le diable prit la forme d'un serpent dans le but unique de faire tomber l'homme et la femme.
Et quelle approche de diable a-t-il prise pour accomplir ses mauvais desseins?
Il eut recours au mensonge. Il sema le doute dans l'esprit de la femme sur la véracité des propos que Dieu avait déclarés et sur ses motivations. Tout d'abord, le serpent laissa entendre à la femme que Dieu avait interdit aux hommes de manger de tous les arbres du jardin. Elle lui répondit correctement en lui expliquant qu'il n'y avait qu'un seul arbre dont le fruit était interdit au risque de mourir. Toutefois, le diable lui assura sur un ton moqueur et méprisant qu'elle ne mourrait pas du tout, mais que si elle en mangeait, elle deviendrait comme Dieu. Il semble insinuer que Dieu veut priver ce couple de quelque chose de bon. qu'il veut leur cacher une connaissance qui leur permettrait de l'égaler. Le diable semait ainsi le doute dans l'esprit de la femme en y déversant deux mensonges. Le premier mensonge concerne la mort. Le diable a affirmé qu'elle ne mourrait pas. Or, la suite de l'histoire de l'humanité nous apprend que par cet acte de désobéissance, la mort est bien entrée dans le monde. Ensuite, le diable suggère qu'il serait avantageux de manger de ce fruit. Mais une fois de plus, les événements qui vont s'enchaîner nous prouvent que les conséquences seront bien plutôt désastreuses.
Rappelez-nous comment la femme a réagi aux suggestions mensongères du serpent.
Malheureusement, elle y a cru. Elle contempla le fruit qu'elle trouva beau et eut le sentiment qu'il était bon à manger. Elle considéra les avantages suggérés par le serpent et décida d'en profiter. Ainsi, elle mangea de ce fruit et l'en donna à son mari.
Certains ont tendance à mettre tout le blâme sur la femme à cause de son acte de désobéissance.
Oui, c'est vrai, Yann. Et pourtant, l'homme a aussi une très grande part de responsabilité. Il semblerait qu'il était présent alors que cette discussion entre la femme et le serpent se déroulait. Il aurait dû, en conséquence, essayer de dissuader sa femme, l'empêcher de cueillir ce fruit. Mais non, il accepta lui-même d'en manger, apparemment sans hésitation. Tous deux semblent donc également responsables de leur choix. Et c'est à tort que certains croient que les femmes sont plus faibles que les hommes quand elles sont confrontées à la tentation.
Merci Étienne d'avoir si bien expliqué le sens de ce récit, mais quelles leçons devons-nous en retenir?
Même s'il n'intervient plus sous forme de serpent, le diable demeure très actif de nos jours. Il emploie toujours les mêmes stratagèmes que ceux utilisés pour attaquer le premier homme et la première femme.
C'est-à-dire?
C'est-à-dire qu'il répand des mensonges qu'il enracine dans nos cultures, nos traditions et nos sociétés. Ces mensonges s'emparent du cœur des hommes et des femmes qui à leur tour les transmettent de génération en génération. Ces mensonges réussissent à aveugler les gens sur les vérités concernant Dieu. Il les incite à douter que Dieu est puissant, éternel. Ces mensonges les poussent à la désobéissance, à la révolte contre le Seigneur. Il les encourage à adopter des comportements destructeurs. En ayant recours aux mensonges, le diable domine la vie des gens qui, pour la plupart, vivent inconscients et ignorent qu'ils sont assujettis aux menteurs.
Et si une personne veut être délivrée de cet esclavage, que doit-elle faire?
Je lui conseille trois démarches simples mais importantes. Tout d'abord, elle doit prier Dieu pour qu'il la guérisse de son aveuglement spirituel. Ensuite, elle doit faire l'effort de lire ou d'écouter la parole de Dieu, la Bible, et aspirer à bien la comprendre. C'est ainsi qu'elle apprendra à discerner tout mensonge. Et enfin, elle doit croire ce que Dieu déclare dans la Bible et agir en conséquence, c'est-à-dire qu'elle doit obéir au Seigneur et lui faire confiance.
Merci Étienne pour ces bons conseils. La prochaine fois, nous découvrirons certaines conséquences de la désobéissance de l'homme et de la femme.
C'est exact, Yann. Au revoir à tous et à bientôt.
Merci. Le moment est venu de commencer notre courte méditation biblique. Et aujourd'hui, je vais lire un extrait de la deuxième lettre de Paul à l'église de Corinthe, chapitre 4, versets 1 à 6.
Nous venons d'apprendre que le diable, par ses mensonges, a aveuglé les hommes sur les vérités spirituelles. Le texte qu'Hélène va nous lire confirme ses propos et rappelle la responsabilité de l'Église. Notre invité Bernard nous en apprendra davantage. Mais tout d'abord, cédons la parole à Hélène.
Ainsi, puisque tel est le ministère que Dieu nous a confié dans sa bonté, nous ne perdons pas courage. Nous rejetons les intrigues et les procédés indignes. Nous ne recourons pas à la ruse et nous ne falsifions pas la parole de Dieu. Au contraire, en faisant connaître la vérité, nous nous en remettons devant Dieu au jugement de tout homme. Et si notre évangile demeure voilé, il ne l'est que pour ceux qui vont à la perdition, pour les incrédules. Le Dieu de ce monde a aveuglé leur esprit et les empêche ainsi de voir briller la lumière de la bonne nouvelle qui fait resplendir la gloire du Christ, lui qui est l'image de Dieu. Ce n'est pas nous-mêmes que nous mettons en avant dans notre prédication, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous-mêmes, nous sommes vos serviteurs à cause de Jésus. En effet, le même Dieu qui a un jour dit « Que la lumière brille au sein des ténèbres » a lui-même brillé dans notre cœur pour y faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu qui rayonne du visage de Jésus-Christ.
La Bible se sert d'images pour décrire l'aveuglement de quiconque ne comprend pas les vérités divines, de quiconque ne saisit pas ce que Dieu a choisi de révéler de sa justice et de sa puissance, de sa gloire et de sa grâce. La Bible déclare que cet aveuglement spirituel est le résultat des mensonges du diable. Il a semé des idées et des croyances fausses au sein de nos cultures, idées et croyances que les gens aveuglés s'approprient et propagent autour d'eux. Cependant, de même qu'une personne vivant renfermée depuis sa naissance dans une grotte croirait que le soleil n'existe pas, celui qui ne voit pas Dieu ne doit pas en conclure qu'il n'existe pas. Dieu est lumière, que les hommes le voient ou non. Dieu est lumière, c'est-à-dire qu'il se révèle, qu'il dévoile les perfections de sa personne, même si les uns et les autres n'osent pas les voir. Dieu fait briller sa lumière à travers sa création, par sa parole écrite, la Bible, en la personne de Jésus-Christ et de nos jours par le moyen de son Église. Chers auditeurs, si aujourd'hui vous croyez en Jésus-Christ, il vous charge de participer à cette belle mission, celle de faire briller la lumière de sa gloire. Comment ? En témoignant de sa grâce à l'œuvre dans nos vies, en enseignant les vérités contenues dans sa parole, en menant une vie qui tende à refléter les qualités de Jésus-Christ qui sont l'amour et la fidélité, la justice et la pureté, la miséricorde et la patience, et tant d'autres vertus encore. Voilà notre responsabilité. Mais qu'en est-il de ceux qui demeurent spirituellement aveugles ? Ne l'oublions pas, Jésus est celui qui, à plusieurs reprises, a redonné la vue aux malvoyants. Alors, aujourd'hui encore, il peut guérir les hommes de leur aveuglement spirituel et leur permettre d'apercevoir sa lumière à travers nos paroles et nos actes.
Merci Bernard pour cette exhortation. Que le Seigneur nous aide à relever ce défi, afin que la lumière de Christ rayonne dans nos vies.
C'est ainsi que nous terminons notre émission. En attendant de vous retrouver bientôt, nous vous disons au revoir.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.